La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Stanley Kubrick a été l'un des rares cinéastes à cumuler la reconnaissance à la fois par le public et par la critique, même si cette dernière a régulièrement commencé par dénigrer chacun de ses films. Il a pratiqué un cinéma totalement américain de par son échelle, alors que la plupart de ses films étaient expérimentaux. Il n'a pas eu peur non plus d'introduire du sexe, de la nudité et de la violence dans des films financés justement par de grands studios. Nous parlons donc jusqu'à jeudi de ce grand perturbateur qui s'intéressait de près à nos dysfonctionnements. Jeudi où il sera question de la musique, de ses films avec Brigitte Gauthier, puis de son dernier opus, Eyes Wide Shut, ce sera avec Thierry Jousse. La veille mercredi, le philosophe Philippe Fraisse viendra nous dire ce qu'il voit dans l'œuvre kubrickienne. Et hier, vous l'avez peut-être entendu, nous avons notamment parlé de ses manies et de sa personnalité, c'était avec Baptiste Roux. Et aujourd'hui ?
Anyone who has ever been privileged to direct a film
a déjà eu le privilège de réaliser un film. C'est bien aussi que même si cela peut revenir à tenter d'écrire Guerre et Paix dans l'autotamponneuse d'un parc à attractions, quand vous y parvenez enfin, c'est une sensation de joie qui n'a pas d'équivalent dans la vie.
Aujourd'hui, avec nous dans l'auto-tamponneuse, nous sommes en votre compagnie. Michel Sion, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du cinéma, théoricien, réalisateur vous-même, compositeur de musique concrète. Vous avez publié de très nombreux livres, dont le dernier en date, et je crois une réédition. Ça s'appelle « La musique au cinéma ». C'était en janvier 2019 et c'était chez Fayard. On vous doit également l'essai biographique intitulé « Stanley Kubrick, l'humain, ni plus ni moins ». Paru aux éditions des Cahiers du cinéma, où il a été réimprimé la dernière fois en 2011. Alors on a dit hier avec Baptiste Roux que Kubrick était un être cérébral, froid, obsessionnel. Et pour vous, comme le dit le titre de votre livre, il est d'abord humain, ni plus ni moins. Qu'entendez-vous par cette formule ?
Alors évidemment, cette formule désigne pas l'homme que, puisque je n'ai pas fait une biographie, mais une monographie sur ses films.
Ce sont ces films qui vous permettent de raconter finalement sa carrière.
Oui, mais je pense que c'est banal de le dire, mais comme Proust disait, ce qu'on raconte dans les œuvres n'est pas un autoportrait. Si c'était un moi, ce serait un autre moi. Donc là, c'est ce dont il parle. Ce dont il parle, dans les quelques films qu'il a fait. Et j'ai appelé ça l'humain, ni plus ni moins. Au moins, je suis content de ce titre, parce que j'aurais voulu aussi donner des sous-titres à chaque chapitre, associés au film, puisque c'est un film, un chapitre, un film, un chapitre, un film, un chapitre. Je parle pas des photos, je parle juste ce qu'il faut de sa biographie pour la survoler, etc. Donc c'est bien de ça qu'il parle, évidemment, selon moi. Donc, ni plus ni moins, contrairement, disons, à une image nietzschéenne, un peu sur, qui est à mon avis fausse, et à mon avis, il suffit de regarder ces films, hein. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de gens qui sont des francs salauds ou s'ils se conduisent comme des franches canailles, comme dans Les Sentiers de la Gloire, c'est la situation qui les met là. Hein, c'est une question de configuration, de place sur l'échiquier, si je peux m'exprimer ainsi. Et comme le prouve admirablement son dernier film, mais aussi évidemment son chef-d'œuvre de Minalusie de l'espace, ce sont des êtres humains, donc,
alors,
comme nous.
Quand vous dites ces héros ne sont ni des salauds, ni des héros, justement, bah, oui. C'est pourtant ça aussi l'humanité, c'est d'être soit un grand homme, soit un salaud. C'est peut-être ça qu'on signifie quand on veut dire qu'il y a quelque chose chez Kubrick d'un petit peu froid, et que vous traduisez au contraire comme étant quelque chose de très humain. Mais vous voyez en quoi on peut le trouver froid ?
Oui, bien sûr, c'est la forme notamment, et puis dans son cas, son rapport à la sentimentalité. Ce qui est touchant, évidemment, c'est que la séquence la plus sentimentale de son cinéma se trouve dans sur l'écran la personne qui est devenue son épouse, Christiane Arland, qui joue une femme, une Allemande, comme elle était Christiane Arland, qui est attrapée et on lui demande de chanter un chant allemand et devant des poilus français qui évidemment sont prêts à se moquer d'elle et ils sont en fait touchés. Et c'est une séquence qui fait pleurer vraiment. Mmh. Et donc il se trouve à la fin de ce très beau film, Les Sentiers de la Gloire, Path of Glory, Les Sentiers de la Gloire, voilà c'est ça. Et après, sans doute se méfiait-il, ou il voulait-il aborder les choses autrement, ou était-il impressionné par des cinéastes qui abordent l'émotion d'une manière qui lui-même l'impressionnait, il disait je pourrais pas arriver à ça. Vous connaissez l'histoire selon laquelle il avait beaucoup travaillé sur le projet qui devait devenir AI, intelligence artificielle, et il a dit à Spielberg qui connaissait, moi je saurais pas le traiter sous l'angle émotionnel que ça demande, mais toi tu sais toucher le cœur des gens, tu peux le faire. Et à mon avis d'ailleurs le film de Kubrick, au moins les deux premiers tiers sont absolument magnifiques.
C'est un peu comme si l'un de ses propos était de dire au spectateur l'intelligence, ça n'est pas justement que cette chose froide, c'est aussi précisément beaucoup d'émotions, mais moi-même, je n'arrive pas vraiment à la faire passer en tant que telle. Je dois passer par des moyens détournés.
Oui, peut-être pensait-il qu'il y avait quelque chose à dire qui passait par d'autres voies, ça je ne connais pas évidemment. Par exemple... Il y a souvent des histoires de stratégie, c'est bien connu. Il y a le fait que l'ordinateur, HAL, est doué de... On l'a programmé avec les mots pour exprimer la sensibilité. « My mind is going, I can feel it ». Mon esprit s'en va, je peux le sentir. Et je pense aussi, c'est son œuvre qui le raconte hein, depuis le premier long métrage, qui a été longtemps très difficile à voir, Peur et désir, Fear and Desire, que la question de regarder en face la peur de la mort est cruciale. Déterminante, et il a eu l'immense courage de s'approcher petit à petit, et que effectivement, à travers la mort de l'ordinateur, mais aussi à travers un plan qu'on voit dans le premier long métrage, qui est filmé par où la caméra se trouve à la place de l'œil d'une morte, n'est-ce pas ? Et évidemment, quelque chose qui est bouleversant, mais en demi-teinte. C'est comme ça que chacun exprime sous la forme où il peut. La mort de l'enfant de Redmond Barry Lyndon, etc., qui meurt d'un accident de cheval, du poney que lui a offert son père, et qui dit « je me sens mourir ». Voilà. Tout ça, ça court, et le fait de regarder en face et d'avoir conscience de sa mort et d'affronter ça, je pense que c'était très important et que ça le poussait énormément et que ça le mobilisait. Mais par ailleurs, sa tournure d'esprit, sa façon de travailler, tout ça le poussait à faire des films qui, froid, je ne sais pas, parce que, par exemple, Shining est un film très démonstratif, n'est-ce pas ? C'est pas fait sur l'émotionnel, bien sûr, mais très démonstratif. Orange Mécanique, qui est un film qui a beaucoup été frappé à l'époque, est un film qui est glaçant ou glacial, si on veut, mais enfin, disons, très baroque.
Exubérant.
Et voilà. Et donc, il a cherché, d'un film à l'autre, à varier le style. Mais souvent, il cherchait à faire quelque chose qui n'avait pas encore été fait, ce qui l'amenait à donner, par exemple, du XVIIIe siècle, dans Barry Lyndon, une image moins trépidante, moins, etc., que celle qu'on avait de ce siècle-là.
Tout à l'heure, vous parliez de Spielberg, Michel Chion. On sait que Kubrick est un maître pour beaucoup de cinéastes qui l'ont suivi. Quels étaient ses maîtres en matière de cinéma ? On sait qu'il voyait tout, qu'il avait une culture cinéphilique incroyable. Est-ce qu'il a exprimé quelque part une grande admiration pour tel ou tel ?
Oui, moi j'ai picoré dans des lectures préparatoires et tout en faisant mon livre des choses, aussi bien dans les fameux entretiens qu'il a donnés à Michel Simon pour un livre que dans des choses qu'il disait à droite et à gauche ou des choses que rapportaient des gens qui étaient avec lui. Et on sait que, par exemple, il aimait beaucoup Ophuls. Le truc Madame 2 était un film extraordinaire, et notamment, mais les films d'Ophuls, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose d'Ophulsien dans le tout dernier, qui est évident. Est évident, peut-être qu'on sait qu'il aimait Ophuls, mais le bal, le tourbillon, etc., la féminité, que c'est Très, d'ailleurs, c'est lié à la question de montrer une femme sous une forme qui ne soit ni mégère, ni une sorte d'archétype sexuel un peu glaçant, etc. Et il a finalement réussi, hein, ce qui me fait un grand plaisir. Mais quant aux autres cinéastes, des fois, c'était tel film. Par exemple, j'étais amusé de lire dans le livre, d'ailleurs un peu malveillant par ailleurs, que consacre à Ice White Shot le scénariste d'Ice White Shot, le co-scénariste Frédéric Raphaël, si je me souviens bien, qui disait, regardez tel film de Lelouch, c'est La Bonne Année, parce que vous verrez quelque chose dont j'ai envie pour ce film-là, c'est-à-dire un tempo, qui me convient bien. Et voyez comme en quoi il n'était pas rigoriste, enfin disons il n'était pas absolutiste, puisque on peut croire que Lelouch est le contraire absolu de Kubrick, il préfère faire 60 films, et dans le tas il y en a forcément certains qui sont très bien, d'ailleurs je le pense, j'ai pas vu les derniers, et La Bonne Année est un film fait à la bonne franquette, et mais j'ai revu le film, que j'ai vu 2 ou 3 fois, et effectivement c'est un très bon Lelouch, avec une sorte de tempo et de sensibilité, liée d'ailleurs à la circonstance du changement d'année, de Noël, qui se trouve également dans les sweatshirts.
Alors, vous avez donc, dans votre livre, parlé des 13 films de Kubrick. Vous parlez beaucoup aussi des sources de ces films, oui, qui sont, la plupart du temps, des romans existants. Vous les avez d'ailleurs relus, Michel Sion.
Oui.
Vous les avez relus dans leur langue d'origine. C'est important, ça, de les relire dans la langue d'origine. Est-ce que ça veut dire que pour Kubrick aussi, ça avait un sens particulier ?
Alors oui, je pense notamment pour Orange Mécanique, puisque c'est écrit directement en anglais, dans un anglais avec des mots créés, hein, par
avec une langue en effet inventée.
Et donc j'ai tenu à le lire. Bon, j'ai été aidé par le fait que j'avais une traduction française à côté, puis que j'ai vu le film évidemment. Ça me paraissait important pour la nouvelle Schnitzler. Je ne sais pas s'il a lu directement en allemand, mais moi je lis l'allemand, donc ça ne posait pas de problème. Et ça m'intéressait pour la question de savoir évidemment qu'est-ce qu'il gardait.
Alors justement, qu'est-ce qu'il garde, à quoi lui servent les romans sur lesquels il s'appuie quand il achète un roman, une histoire finalement, qu'est-ce qu'il en garde, qu'est-ce qu'il en retient?
Il fait évidemment parfois des choses très étonnantes, on ne sait pas finalement, je crois qu'il fonctionnait aussi intuitivement que tout le monde, et il se disait, bon là ça me plaît, là ça m'accroche. Alors ensuite, le point d'accroche se retrouve ou non dans le film, la façon dont on a... Alors dans le cas de... ce qui est curieux, le cas évidemment le plus manifeste de transformation, c'est évidemment le roman de Thackeray,
Barry Lyndon,
pour mon accent, Barry Lyndon, où c'est raconté à la première personne par quelqu'un qui se vante. Et c'est montré à la troisième personne, parce qu'il n'y a pas de voix off, rien du tout, avec un acteur qui est d'ailleurs admirablement choisi, je trouve qu'il est très très bien, et qui exprime très bien peu de choses, c'est-à-dire l'émotion interne, parce que c'est un Ryan O'Neill, cherchez son nom, qui s'est admirablement pleuré ou exprimé la souffrance par son visage, qui est admirable dans ce film. Et le travail de Kubrick consiste à le déposséder par la mise en scène, par le moyen de diriger, de tout ce que le personnage peut s'attribuer comme fait d'armes, sachant qu'une fois qu'il est déposé de tous les faits de conquête d'armes, aussi bien battre des gens que conquérir une lady, il peut enfin être humain.
Donc il n'est pas au service du texte sur lequel il s'appuie.
C'est-à-dire, je pense qu'il va à la racine du texte. Par exemple, le roman de Thackeray est écrit de manière ironique, hein, comme certains romans anglais, un des plus connus étant le roman de Sterne, qui est magnifique. Enfin bref, tout le monde le connaît. Bref.
Tout le monde. Mais tout le monde l'oublie.
ça s'appelle ça. Où quelqu'un raconte ce qui a précédé sa naissance et il n'arrive jamais à arriver au moment de sa conception.
C'est les aventures de... Enfin bon, oui, voilà, on le mettra sur... On a fait une émission d'ailleurs sur Sterne, vous pouvez le retrouver
sur
en
Sterne, podcast. Voilà. Tristram Shandy, voilà. Et donc, il y a un fond d'ironie très particulière qui rend par une autre ironie, qui consiste évidemment à raconter une histoire apparemment séduisante de conquête, de bretteur, de conquérante femme, d'une manière lente, tranquille et pas du tout héroïsante, et avec des moyens que donne le cinéma de déposséder un personnage de son courage. Et en même temps, par exemple, la scène où il se montre brave et courageux et noble quand il est en duel avec son beau-fils, hein, à la fin, Lord Billingdon, il choisit de l'épargner, sachant qu'il pourrait le tuer. Et à ce moment-là, Kubrick choisit de ne pas montrer de gros plans de Ryan O'Neill, mais de montrer celui qui est frappé. Et ce sont des tas de choses qui sont semées par-dessus tout le film, qui montrent qu'en fait, il peut devenir humain, parce que justement... il n'a plus rien à prouver.
Mais est-ce que ça veut dire, pour terminer,
il existe,
sur la question de l'adaptation, que Kubrick a quand même besoin d'un texte? Il ne peut pas lui-même produire une histoire, et j'irais même plus loin, il a besoin d'un scénariste.
Oui.
Il a toujours cette difficulté. Je ne sais pas si on peut dire
ce mot-là. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est une difficulté. Bien des compositeurs d'opéra ont travaillé sur des livrets dont ils n'étaient pas les auteurs, comme Puccini, et ont raconté, enfin, ont fait des choses magnifiques.
Mais donc, c'est la mise en scène qu'il fait. Uniquement la mise en scène. Ce qui est déjà formidable.
Ah, c'est le film, quoi. C'est tout, quoi. C'est la photo, c'est le choix des acteurs, c'est le casting, c'est la réalisation. Je ne sais pas, parce que l'idée de scénario original, je ne sais pas. Il y a énormément de films, que ce soit Truffaut, enfin, des cinéastes qui ont toujours travaillé avec quelqu'un. Et en fait, ça ne change rien, parce que dans son cas, je ne sais pas pourquoi, en fait.
Il essaye d'effacer les traces. Une des raisons pour lesquelles il change tout le temps de genre et même de style, bien qu'il y ait des résurgences, qu'il y ait des constantes, comme le travelling arrière qu'il affectionne particulièrement, bon, ça c'est sûr qu'on retrouve ça, des formes stylistiques qui sont récurrentes. Mais en même temps, je crois que chez Kubrick, outre le fait, comme je le disais, de vouloir épuiser totalement les possibilités d'un genre et de faire mieux que tout ce qui a précédé dans ce genre, il y a aussi chez lui une volonté, comme dans Shining, d'effacer les traces du petit Poucet, c'est-à-dire de ne pas laisser d'empreintes, pour que justement on n'aille pas percer ce secret, cette vie privée dont il ne veut pas qu'on parle. Il veut qu'on parle que de son œuvre, il ne veut pas qu'on parle de lui. Et donc je pense que en changeant complètement à 180 degrés, faisant des virages absolus, en passant de la science-fiction au film en costume, du film en costume au film d'horreur, du film d'horreur au film sur la guerre, puis maintenant en train de tourner un film sur les rapports de jalousie sexuelle dans un couple, je crois que c'est une volonté de ne pas être épinglé, de ne pas être réduit. Il n'y a rien qu'il déteste tant que de répéter la même chose. Donc c'est pour ça qu'il a été long à se faire reconnaître par la critique, parce qu'évidemment, parce que la critique n'avait pas les répétitions qu'elle affectionne.
La compagnie des œuvres sur France Culture, avec à l'instant un extrait d'un entretien de Kubrick avec Michel Simon. Simon qui aurait été l'un des rares critiques finalement très respecté par Kubrick et à qui il se confiait régulièrement. Pensez-vous, Michel Chion, que Kubrick se cachait finalement en rendant son cinéma insaisissable, qu'il se cachait derrière un genre puis derrière un autre? C'est vrai qu'on a un sentiment qu'à chaque film, il réinvente quasiment le genre auquel il s'attaque. C'est votre sentiment aussi?
Non, je pense pas la même chose que mon ami Michel Simon, que je m'autorise à nommer ainsi, parce que je le respecte beaucoup, je l'aime beaucoup. Puis on se connaît. Mais par exemple, il a fait plusieurs films policiers, n'est-ce pas, au début. Le genre policier, d'ailleurs, était un genre où on peut passer pas mal de choses, comme vous savez. Il n'a pas fait de western, il n'a pas cherché non plus à en faire, il n'a pas fait de...
Il n'a peut-être pas eu le temps.
De comédie musicale. Non, mais je pense vraiment pas qu'il avait un...
Une liste de
qu'il
tous
avait
les genres.
Une liste, bon, alors à 75 ans, je vais faire une comédie musicale, vous allez voir ce que c'est. Non, je crois pas.
En fait, 2000 ans au-dessus de l'espace, c'est un peu une comédie musicale.
Non, mais ça, on joue sur les mots, vous le savez bien.
C'est quand même, comme, je crois qu'il l'a dit, à positif, justement.
Comme le... Je suis pas d'accord avec cette approche. C'est-à-dire que, par exemple, Orange Mécanique est de l'anticipation, mais pas technologique. Se situe dans un proche futur. Et c'est une approche tout à fait différent de... Je crois pas, franchement. Le point commun, évidemment... Moi, je crois que la question des genres... Vous savez qu'il y a eu des westerns à peu près... Il y a eu des westerns psychanalytiques, des westerns pro-indiens, des westerns politiques, des westerns sociaux, des westerns... Tout ce qu'on veut. Hein. Et de même pour le cinéma policier. Alors là, c'est, il y a à ce moment des sous-genres. Je ne crois pas tellement à ça. Par contre, c'est vrai que ce que dit Michel Simon, c'est qu'il ne voulait pas se répéter parce qu'il mettait tellement de travail, d'investissement, à partir de cette époque, hein, pas tout de suite. Mais disons, il y a eu Lolita, et il y a eu... il y a eu après, ben, il y a eu Spartacus, qui était une expérience, effectivement, où ça lui a échappé pour des raisons...
Du docteur Follamour après Lolita.
Puisqu'il a été engagé à la place de quelqu'un d'autre, Anthony Mann, si je me souviens bien, je dis ça de mémoire. Et ensuite, il a tenu à son indépendance et qu'il a su s'assurer. Mais cette indépendance impliquait d'ailleurs que de temps en temps, il fasse un gros succès. Parce que je ne crois pas que c'était la Warner, je ne sais pas, etc. À un moment donné, il leur a dit, Monsieur Kubrick, on va financer jusque tout ce que vous voulez faire à n'importe quel prix. Ce n'est pas vrai. Donc, quand Barry Lyndon ne marche pas, il faut qu'il fasse un succès, à mon avis. Donc, il n'est pas fou. Hein.
Il fait Shining après Barry Lyndon, 22 millions d'entrées, donc succès incroyable.
Un auteur qui est populaire auprès des jeunes, et puis il en fait un film qui finalement marche très bien mondialement, peut-être pas immédiatement aux États-Unis, mais mondialement. D'ailleurs, vous savez, peut-être pas, enfin, si vous savez, vous, mais tout le monde ne sait pas, c'est qu'il y a deux versions de Shining. Une version longue que moi j'ai vue à New York quand le film est sorti, qui est absolument interminable, et dont le début c'est comme attendre pendant 25 minutes qu'on vous fasse entrer, parce qu'il y a une exposition absolument sans fin. Version qui était longtemps pas distribuée en Europe, mais que maintenant on trouve facilement. Hein. Et puis la version dite européenne, dont le début notamment est beaucoup plus court. Voilà.
Mmh. Donc vous n'aimez ni l'une ni l'autre en réalité, hein, Michel Chion.
Je n'aime pas vraiment. C'est d'ailleurs quand, enfin, pour moi faire. L'histoire de mon livre, au départ, j'avais fait un livre qui devait paraître isolément sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Après, Rob White, de British Film Institute, m'a proposé d'écrire directement pour une édition anglaise un livre sur Ray Sweatshett. Et Claudine Paco, des cahiers, m'a dit, on va faire, tu veux pas faire un livre sur Kubrick? Je dis oui, mais j'aime pas trop Shining, je peux en parler, j'ai des choses à dire, mais il y a des choses que j'aime pas du tout. Ben, ça fait rien, tu le diras. Et donc, voilà, ben, je l'ai dit en 4 pages, qu'on peut déchirer du livre si on n'aime pas ce que je dis de Shining, mais ça m'empêche pas de parler avec respect de ce film-là.
C'est John Kelly de Warner Brothers qui m'a envoyé ce livre, encore à l'état de manuscrit. J'ai toujours aimé ce genre de littérature, mais j'avais le sentiment de n'avoir jamais vu de film qui puisse rendre justice à ce genre que je définirais comme un équilibre fragile entre le psychologique et le surnaturel. Il y a eu des films avec des chocs, des moments d'horreur magnifiques. Mais aucun film capable de faire tomber les barrières de votre incrédulité et de vous faire entrer de plein pied dans l'histoire. Il n'y a pas eu de film où le surnaturel soit montré de manière réaliste.
Pas quand même, Michel Chion, un jeu avec les différents genres cinématographiques et une volonté tout de même de dépasser à chaque fois ce qui a été fait et de troubler aussi le genre.
S'ils disent, ce à quoi je suis pas d'accord, qu'il y a aucun film qui apporte, moi il y a plein de films antérieurs à Shining où je trouve que j'éprouve ce frisson, une fois du surnaturel, la peur et des choses comme ça, des films de maison hantée, même un film qui est classé comme thriller mais qui fonctionne comme un film de terreur, qui est le film d'Aldrich en quatrième vitesse, qui est extraordinaire.
Justement, il y a du réalisme là, c'est ça qui l'amène.
Oui, alors là il parle du surnaturel. Bon, je sais pas, je sens pas pas trop le surnaturel dans les films qu'il a fait de Shining. Ça, c'était sa question du surnaturel. Mais dépasser le genre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois qu'il cherchait à faire vraiment un très très bon film. Et sachant qu'il avait un esprit personnel et sa sensibilité, et puis son exigence et une sorte de respect du public, il cherchait à faire, non pas à s'attaquer au genre, il avait ses admirations, mais en tout cas à faire quelque chose qui apporte quelque chose, quoi. Qui ne soit pas juste un film de plus, un film de série. Voilà. Mais alors, il y a des gens qui adorent Shining. Moi, je sais ce que j'aime pas dedans. J'ai un souvenir très précis de la première fois où je l'ai vu justement sans aucune préparation dans sa longue version langue américaine et du choc que m'a donné l'image du petit garçon sur sa petite voiture avec le son qui fait vroom, jish, vroom, jish, etc. Et toute une série de choses. Et dès qu'apparaissent les fantômes, moi, je dis bon, ok, bon, ça va. Moi, je marche pas. Il y a des gens qui marchent, mais sur le plan d'ailleurs de la folie. Hein. Ils disent que ça rend très très bien compte d'un univers de folie. Et puis voilà quoi, donc ça se discute pas. Le film marche sur certaines personnes, pas sur d'autres. Mais je pense que la question du genre, c'est tellement varié, ça évolue tellement un genre, et les gens croient que c'est la même chose, un film de fantôme en 1950, en 1980, dans tel ou tel pays, c'est des choses totalement différentes.
Mais alors, est-ce qu'on retrouve d'un film à l'autre une patte qui serait celle de Kubrick, puisque quand même, il n'aime pas se répéter, ça c'est clair. Qu'est-ce qui revient et qui fait qu'on peut dire ça c'est un film de Kubrick pour chacun de ses films?
Ah, ça c'est une bonne question, parce que en fait, si on savait pas que c'est de Kubrick, à quoi le reconnaîtrait-on?
Parce qu'entre Lolita et 2001 et Shining et Eyes Wide Shut, il y a quand même pas grand-chose de commun, si ce n'est peut-être en effet des thématiques obsessionnelles.
Oui, ça prouve bien que l'œuvre prime sur l'idée je vais mettre ma patte comme auteur. Il y a des très bons cinéastes.
C'est un pur cinéaste qui travaille sur la matière cinéma.
Enfin, il y a des très bons cinéastes qui étaient obsédés par l'idée de mettre leur patte sur chaque film, et la patte était mise tel un tampon immédiatement. Je pense à Mocky qui a fait des très bons films et alors on peut reconnaître un film de Mocky tout de suite, mais sa façon de travailler, sa dynamique, son métabolisme, je sais pas quoi, faisait que des fois il y en avait un de bien ou d'attachant pour cinq comme ça. Kubrick, je ne sais pas si ce serait possible, effectivement, ne sachant pas, ce qui est une question abstraite, que tel film est de Kubrick, si on pourrait le reconnaître. Je ne crois pas. Je ne crois même pas qu'on pourrait, parce que je ne vois pas à quoi on le reconnaîtrait, en fait. Il y a évidemment, si je travaille, moi, en tant qu'auteur d'une monographie sur Kubrick, sur tous les films, j'y vois bien les récurrences.
La voix off, par exemple, qui revient pratiquement
toujours.
Oui, mais
il y a des masses de films avec la voix off. Non, il y a des masses, des centaines de films avec des voix off. J'ai dit tout à l'heure, de façon erronée, effectivement, qu'il n'y ait pas de voix off dans Brad Eden. Si, mais c'est celle d'un monsieur grave qui intervient par petites touches au début et au milieu, et puis qui s'éclipse la plupart du temps. Mais donc ça ne le distingue pas. Mais par contre, il y a la façon dont l'image est symétrique, et je dis centripète, c'est-à-dire qu'on est comme aspiré à l'intérieur d'une image. La symétrie est chose importante. Mais ça, c'est facile à voir si on voit ces films depuis le début, puis également ces plans de pénétration dans une tranchée où on a l'impression que quand quelqu'un bouge dans un espace étroit à droite et à gauche, il repousse l'espace devant lui.
Là, vous pensez au Sentier de la Gloire.
Au Sentier de la Gloire.
À cette scène introductive qui a d'ailleurs beaucoup impressionné Truffaut, je crois, à l'époque, puisqu'il voulait plus ou moins, voilà. Il avait demandé, je crois, à Kubrick s'il pouvait la copier.
Je ne sais pas. Alors oui, il y a à la fois un côté bigger than life, c'est-à-dire énorme, le grand angle qui magnifie quelqu'un qui marche, et puis en même temps, on l'a dans Barry Lyndon avec Lord Bullingdon qui va défier, mais mort de trouille aussi, c'est ça qui est cet humain, c'est-à-dire qu'il a l'air d'un héros, tout ça, mais il est mort de trouille. Ouais. Il vomit, faute de faire autre chose que je ne nommerai pas. Mais c'est ça la réalité. C'est ça qui montre la peur de mourir. Et à la fin, dans le dernier film, j'étais très frappé intuitivement, par le retour d'un plan qui met en scène Tom Cruise d'une part et d'autre part son rival, entre guillemets, c'est-à-dire un garçon qui ressemble à peu près à lui et qui en fait est le fiancé de cette jeune femme qui vient de perdre son père et tout ça, tout ça, ça. C'est le même plan et l'un chasse l'autre devant lui. C'est-à-dire que y a une notion de rivalité, mais aussi de vous êtes à une certaine place, et puis dans le cours de l'existence, quelqu'un marche avec vous et vous chasse et vous pousse, ne serait-ce que la différence d'âge. C'est la question aussi de la naissance du fils, c'est la question du fils chez lui. Bon, là, je suis un peu trop allusif.
Donc l'image est toujours métaphorique ?
Non, non, elle n'est pas métaphorique, elle est réelle. C'est-à-dire que, oui, je réponds ça un peu comme ça, mais je veux dire qu'il s'agit de rendre réel quelque chose. Et donc
de rendre réel quelque chose qui est dans notre esprit,
non, mais
de
qui concrétiser. Est, qui est vécu, moi, je crois que quand il... Il y a une scène qui est bouleversante parmi d'autres scènes dans Eyes Wide Shut, c'est cette femme qui est au chevet de son père, qu'elle a soigné, elle s'est occupée, c'est Miranda Richardson, je crois. Et puis, elle, de manière inattendue, elle se penche vers Tom Cruise et lui dit « Épousez-moi, je ne veux pas cette vie, je ne veux pas de ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. »
Et elle l'embrasse.
C'est le basculement d'une vie, c'est le basculement. Voilà. Et ça, c'est... ressenti, et c'est magnifique. C'est-à-dire ces moments où la vie semble toute tracée, le dessin semble tout tracé, y compris pour un metteur en scène connu et tout ça. Il avait une vie de famille, il était comme tout le monde. Et le médecin joué par Tom Cruise, c'est une star très riche, un sex symbole, marié à une sex symbole à l'époque, Nicole Kidman, et il joue même un couple, donc les gens ont vu ça. Mais le début du film, c'est ils sont... En fait, lui, il est un médecin de la classe moyenne et il a eu l'occasion de soigner le coup de Dennis Elbow d'un homme 10 millions de fois plus riche que lui. Et donc, il est rien, il est personne là-dedans. Et il faut qu'il existe quand même en tant qu'homme, puisque c'est un univers d'hommes, il raconte des histoires d'hommes, Kubrick quand même, d'un point de vue masculin, comment pourrait-il faire autrement, et qu'il s'agit d'exister et de se faire sa place, et puis d'hésiter, et puis c'est la vie, et puis comme dit le personnage joué par Sidney Pollack, ça continue jusqu'à ce que ça finisse, quoi.
Est-ce que Lolita, c'est la même chose, Michel Chion ? Est-ce que c'est un moment de basculement ? Je crois que Lolita, c'est pas un des films que vous préférez de Kubrick,
non,
d'ailleurs.
C'est un film très, très intéressant. Il faut prendre en considération aussi à quel moment il le fait. C'est ce troisième comme film, c'est magistral. Il y a évidemment Nabokov commençait à participer au scénario, mais il allait de soi qu'on n'allait pas adapter Lolita au cinéma sans faire vieillir de 4 ou 5 ans l'héroïne.
Parce qu'elle a 12 ans à peu près dans le livre. Et alors dans le film, elle a quand même peut-être 16 ou 17 ans.
Il y a un effet de cinéma dont je ne sais pas si c'est de l'intention de Nabokov, qui est dans le film de Kubrick, c'est elle qui semble le choisir, parce qu'il y a un regard sur elle derrière ses lunettes noires.
Elle est très aguicheuse, en effet.
Elle a mis son dévolu sur lui. C'est ça que le cinéma permet de signifier, c'est-à-dire que quelqu'un, mais vous êtes sous le regard d'eux. Voilà. Et à partir de là, le film a des très bons moments. Comment dire, ces films sont dans une histoire, une trajectoire. Évidemment, il y a la question de Shelley Winters, qui est un peu sacrifiée par le scénario, et qui était une actrice remarquable, à laquelle on a confié souvent des rôles de bobonne, de femme, etc., sacrifiée au profit d'une autre, plus séduisante. C'est comme dans le film de Stevens, qui est très beau, là, avec Montgomery Clift, à Une place au soleil, où elle joue l'ouvrière dont tu es amoureux au départ, Montgomery Clift, etc. Et là-dedans, je trouve qu'elle est un peu poussée à la caricature. C'était d'ailleurs comme Shelley Duvall dans Shining. Et que, dit plus ni moins, Kubrick a mis beaucoup de temps à régler son regard sur la femme et de façon à ce que ce soit, voilà, pour montrer une femme, ni plus ni moins. Et en quoi je
trouve. Il y arrive finalement seulement avec Eyes Wide Shut
Dans un sens, oui, mais par ailleurs, ça ne l'a pas empêché de faire des films sublimes et importants, ou un film, voire un film où il n'y a aucune femme, sinon une hôtesse de. Alors, par exemple, prenons le lycée de l'espace. Il n'y a aucune femme, si on s'en tient à la lettre, parce qu'il y a une hôtesse qui vient juste apporter leurs boissons à ces messieurs.
Oui, sinon, et puis les espèces de boîtes en carton dans lesquelles il y a des carottes.
Oui, c'est ça. Ce qu'on imaginait être la nourriture de l'an 2000, n'est-ce pas, dans mes années 60.
C'est pas si loin de la réalité. N'est-ce pas ?
Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a ? On a un fœtus. Un fœtus, il faut bien que ça soit dans un placenta qui lui-même dans un utérus. Donc, en fait, l'univers entier devient un sein maternel. Alors, je vous dis qu'on n'échappe pas comme ça. Do you think you're doing, Dave ? Dave. I really think I'm entitled to an answer to that question. Je sais que je n'ai pas toujours été en pleine possession de mes moyens.
Mais je puis vous assurer, qu'en toute certitude, que désormais tout rentrera dans l'ordre. Je me sens déjà beaucoup mieux. C'est vrai. Écoutez, Dave. Je sais que j'ai pris quelques décisions hâtives et irréfléchies ces derniers temps. Mais je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal. J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Et je veux vous aider à la mener à bien. Dave, arrêtez. Je vous en prie. Dave, arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez, Dave. J'ai peur, Dave. Mon cerveau se vide.
Daisy. Daisy. Give me your answer, too. I'm half crazy. All for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage.
La Compagnie des œuvres sur France Culture. Il n'y a pas grand-chose de plus déchirant que la mort d'une machine. Quand c'est Stanley Kubrick qui vous la montre. D'ailleurs, vous-même, vous étiez, Michel Chion, en train de chanter, chantonner en même temps que HAL 9000 qui mourait.
C'est une chanson de 1900, Bicycle for Two, Venez pour ma bicyclette pour deux, etc. Je crois que dans une des versions, d'ailleurs plusieurs versions françaises, ils ont mis à la, au clair de la lune. Et puis en italien, c'est Giro, Giro, Tondo, etc. Et alors, par exemple, je découvre la version française que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais la version sous-titrée. Et je vois que HAL, qui s'appelle Carl dans la VF originelle, version française originale, vous voit.
L'ordinateur. Dave, non, l'ordinateur.
L'ordinateur vous voit. Arrêtez.
Mm.
Alors c'est stop, etc. Et oui, c'est déchirant. Alors on entend deux autres sons. Le son de la respiration égale qu'on attribue d'ailleurs à Dave Bowman.
Parce qu'il est sous son casque.
Oui, parce que lui, il est vivant, il a une respiration. Et d'ailleurs, il y a un effet de contamination de la respiration que nous prêtons en même temps à un être pseudo-vivant qui est l'ordinateur. Et puis, il y a le sifflement d'air qui est l'alimentation en oxygène à l'intérieur du casque de Dave, qui d'ailleurs, qu'on entend à un autre moment du film, s'interrompre brutalement. C'est le t'étais vivant, t'étais mort, qui correspond à la mort de Frank Poole, quand HAL lui coupe son cordon d'alimentation.
Voilà, et le jette dans l'espace.
C'est terminé. Donc, t'es mort, t'es vivant. Je te raconte à l'envers, d'ailleurs. Mais ce que vous dites là me faisait penser à une remarque très amusante de Kubrick sur... ou que quelqu'un lui disait sur... sur Shining, que finalement c'était une histoire positive, puisqu'à la fin on ne meurt pas. Puisqu'il y a des fantômes, ça veut dire qu'on ne meurt pas. Tant mieux, quoi, c'est toujours ça de gagner, en gros. Quoi. Alors que pour beaucoup de gens, le fait qu'il y ait des fantômes, c'est terrifiant, c'est horrible.
C'est quoi pour vous l'obsession de Kubrick pour la machine, pour l'intelligence artificielle? Vous avez dit tout à l'heure qu'il devait faire ce film que finalement Spielberg fera à sa place,
oui.
Artificial Intelligence.
Oui.
D'où ça vient?
Ah, je sais pas. En tout cas, c'est un enfant. Hein. C'est l'histoire de Pinocchio, comme vous savez. Il a été fasciné par l'histoire de Pinocchio inventée par Collodi.
Décidément, vous posez beaucoup de colle aujourd'hui dans cette émission.
Ben non, c'est un auteur italien génial.
Oui, on sait bien qui est Collodi.
qui a inventé le personnage de Pinocchio, le personnage du monteur de marionnettes, etc. Et ce petit garçon, cette petite marionnette qui demande une âme à exister. Et je pense que c'est l'expérience tout simplement d'un petit garçon. C'est l'expérience d'un petit garçon, finalement, qui n'est pas tellement différente de celle de Pinocchio, puisqu'on lui demande d'être comme il faut, de se conformer à, et de ressembler à certaines images. Hein. Nous sommes éduqués de façon à être, non pas des marionnettes forcément, mais enfin, en tout cas à correspondre à une image. On se dit quoi ? C'est qui ? On veut que je sois qui ? Et alors donc on oublie le côté, la quête du petit garçon là dans AI, c'est la quête de qui je suis, mais qu'est-ce que je fous là, et je correspond au désir de qui et de quoi.
Est-ce que c'est un petit garçon aussi qui est dans le corps du docteur Folamour, parce que lui, il semble un peu immature par certains moments. Tenez, je vous propose qu'on écoute un extrait justement du docteur Folamour.
Président, il nous reste de sérieuses chances de préserver un noyau de spécimens humains. Ce serait assez facile. En les abritant au fond de galeries de mines de profondeur suffisante, la radioactivité ne pénétrerait pas dans un puits d'environ 300 ou 400 mètres. Quelques semaines suffiraient à aménager les mines existantes en espace habitable. Combien de temps faudrait-il y rester? Eh bien, attendez. Cobaltorium C. Yes. Vie moyenne de radioactivité. Il faudrait rester peut-être une centaine d'années.
Comment? Vous pensez qu'on pourrait rester sous terre pendant 100 ans?
Ce serait pas difficile, mein Führer! Des réacteurs nucléaires... Pardon, monsieur le président. Des réacteurs nucléaires fourniraient presque indéfiniment de l'énergie. Il y aurait des serres où les plantes pourraient être cultivées, on pourrait élever des bêtes et les abattre. Il faudrait faire un recensement rapide des mines suffisamment profondes dans tout le territoire. Mais à vue d'œil, je crois que... il serait possible de loger plusieurs centaines de milliers de personnes sous terre.
Mais voyons, docteur, je ne voudrais pas avoir à choisir qui restera en haut et qui descendra.
Mais ça ne serait pas nécessaire, monsieur le président.
On a un peu l'impression là, Michel Chion, oui, que le docteur Folamour, c'est un enfant qui joue avec un jouet. Et puis bon, le jouet, et si on le casse, finalement, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est le jeu.
Non, je pense que c'est quelqu'un qui raisonne. Et le projet nazi, dont il est explicitement question, et sur lequel, évidemment, vous savez, Kubrick voulait faire un film, là, qu'il a finalement renoncé à faire, était un projet rationalisant. C'était sur la base, évidemment, il y avait le délire, puisque dès qu'on s'avance de certaines manières dans la raison, on est dans le délire. Mais c'est un projet absolument rationnel. Moi qui ai lu beaucoup de science-fiction, il me paraît absolument pas étonnant, et vu beaucoup de films, que dans un certain nombre d'années, des gens se baladent dans l'espace pendant un certain nombre de décennies, de manière à atteindre un endroit, etc.
De toute façon, tout est très documenté chez Kubrick.
Oui, et puis on fait appel à la raison. Si on raisonne bien, le projet de Strangelove, là, de Peter Sellers, de ce personnage qui joue, se tient. Hein, il est rationnel par rapport à la situation qu'il y a de survie. Hein. Après tout, la raison, c'est quand même précieux et magnifique. Donc il met en scène la raison, en quoi la raison peut se mettre à dérailler, mais en même temps c'est une des choses qu'on a parmi les plus belles, hein, c'est ce qui a permis après tout d'envoyer des fusées dans la Lune, etc., de faire accomplir des miracles à la science, de diminuer la douleur humaine, et moi je trouve qu'il faut lui tirer son chapeau à la raison humaine et à la connaissance, et qu'en même temps évidemment on ne peut pas se dissimuler, qu'on ne peut pas tout prévoir, et que dans le schéma raconté dans Dr. Folamour, Dr. Strangelove, il y a comme vous avez dit tout à l'heure, le dysfonctionnement, mais ça ne, il jette pas le bébé avec l'eau du bain, si je peux dire. Il jette pas la raison par-dessus bord, sous prétexte que des fois ça se met à dysfonctionner sérieusement. Il y a quelque chose qu'on n'a pas prévu.
En tout cas, les dysfonctionnements dont on parle aujourd'hui, oui, les dysfonctionnements écologiques, la question nucléaire, les peurs autour de l'intelligence artificielle, la question de la démesure de l'être humain, tout ça, c'est dans tous les films, oui. ou dans beaucoup de films
oui, beaucoup de films,
Stanley Kubrick. Donc, il y a quand même une compréhension très, très intime des courants profonds de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'arriver dans l'œuvre oui. de Stanley Kubrick.
Ça, c'est comme vous savez, c'est un thème, le thème de l'homme est un apprenti sorcier, ça a commencé vers la fin du 19e siècle. Mon Dieu, on soigne les maladies, on a la trace dans des tas de romans, à commencer par le roman d'Herbert George Wells, hein, qui est un des créateurs de la science-fiction, plus que chez Jules Verne d'ailleurs. Jules Verne est un génie, hein, mais Wells, sans E à la fin, hein, le Herbert George, l'auteur de L'Homme Invisible et de La Guerre des Mondes, fait un très bon interprète de ce qu'on pouvait prévoir, de ce que les progrès allaient entraîner quant à une possible dégénérescence de l'espèce humaine, parce que c'est ça a hanté la fin du 19e siècle. Oui, mais d'accord, si on soigne les maladies, ça veut dire que les êtres faibles vont survivre, et donc, etc., l'espèce va dégénérer, puis ceci, puis cela, puis cela, puis cela. Et une sorte de culpabilité, d'ailleurs, du progrès, une sorte de culpabilité. Et d'innombrables romans et par la suite films de science-fiction se sont fait les échos de cette chose-là, mais en des termes différents de Kubrick, qui lui, je dis, ne jette pas le bébé Claude Dubin. En ce moment-là, j'étais en train d'écouter des chroniques sur la collapsologie, d'ailleurs je crois que c'était sur France Culture.
Bientôt un numéro de France Culture papier sur le sujet.
Oui, c'est ça. Et bon, il y a des gens qui disent, oui, tout va foutre le camp, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, dans certains cas, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus, mais en tout cas, ça prouve bien que des gens pensent qu'il faut se battre la coulpe parce que tout va mal, etc. Ils pensent que c'est une erreur. Comment dire ? Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que Kubrick a traité à sa façon, hein, qui courait partout et bien avant que lui-même ne commence à faire des films.
Alors, il y a donc ces grands thèmes oui. qu'il traite quand même au fur et à mesure de sa carrière de plus en plus. Au début, qu'est-ce qu'on a ? Au début, on a Les Sentiers de la Gloire, par exemple. Bon, avant, il y a Spartacus, mais c'est quand même un petit peu différent. Il y a Peur et Désir.
C'est un film qu'il n'aimait pas. On dit qu'il a souhaité que ça ne soit pas montré. Et quand je l'ai vu, moi, c'est un ami qui m'a dit « Il y a une copie pirate, quelqu'un l'a photographié. »
Pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas ce film ?
Bah, il le trouvait pompeux, maladroit, faible,
et
prétentieux.
Et c'est le cas, d'ailleurs, selon vous ?
Oui, si on veut, mais si on considère que c'est fait par quelqu'un qui a 25 ans, on le regarde avec respect, mais il avait le droit de dire, moi, de brûler ça comme certains brûlent leurs manuscrits, ce qui est arrivé à des tas d'écrivains, de dire, moi, je veux plus l'entendre parler, ou je voudrais que ça soit supprimé. Mais en tout cas, peur et désir, c'est les fondamentaux de l'être humain, c'est-à-dire la peur. Hein. Alors après, c'est raconté à travers une métaphore, un peu d'une guerre à Joseph Conrad, un peu dans une guerre située on ne sait où, on ne sait pas, mais il y a le sexe, la peur, les fondamentaux de l'être humain. Et c'est très anthropologique, je ne sais pas comment dire.
Il y a plus de guerre au début de l'œuvre qu'à la fin, on a l'impression. Cela dit, il y a Full Metal Jacket, bien sûr.
Ouais. Je vous fais pas dire.
À la fin, en 1987. Alors il y revient finalement. Donc, est-ce que les premiers films de guerre, et par exemple Les Sentiers de la Gloire, sont une première tentative, un premier brouillon de réflexion qui va donner ensuite Full Metal Jacket, ou est-ce que tout ça, c'est séparable et ça doit être regardé finalement séparément?
Oui,
Michel
alors
Chion.
Effectivement, il y a l'histoire et puis notamment le fait que quand il a fait Peur et Désir, c'était en tant que jeune homme, etc., avait parti d'une image certainement pas romantique et littéraire de la guerre. Ensuite, il s'est documenté dessus, il l'a pas faite, mais il l'a passé par des périodes, etc. Et puis, on raconte, ou j'ai lu, que quand il a vu... qu'on s'appelle Apocalypse Now, qui ressort en ce moment dans la version définitive, Final Cut et tout ça. Il a trouvé que le film était une fumisterie qui idéalisait, romantisait la guerre, et en quoi je suis né. Je n'ai pas connu la guerre, mais je tendance à penser que Kubrick avait raison. Et il a dit, moi, je vais faire un film qui va montrer ce que c'était vraiment, et ce n'était pas le romantisme pompeux et déclamatoire, avec du Wagner lancé par des hélicoptères, sur des villages vietnamiens, c'était autre chose.
Ça l'a scandalisé finalement
Oui, ça l'a choqué. Et puis, il avait seulement quelque chose à dire. Et je trouve qu'effectivement, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai vu Full Metal Jacket.
Quelque chose comme ça.
Oui. j'étais frappé par le fait que c'était un film, qui montrait tout sauf l'héroïsme et qui ne montrait pas non plus l'anti-héroïsme. Mais je voyais aussi que des gens comprenaient ça d'une autre manière que moi. Par exemple, quelqu'un voit à la fin le geste de Matthew Modine qui achève la pauvre sniper. Enfin, je dis la pauvre parce qu'elle va mourir. Hein. Elle a tué pas mal d'Américains, mais la sniper vietnamienne. Mais elle va mourir. Alors lui, il l'achève. Et moi, je disais, c'est un geste d'humanité parce que sinon, elle va mettre des jours à mourir bouffée par les rats. C'est ce qui est dit dans le film. Et je vois à quel point les gens voient les films de guerre. Moi, j'ai pas fait la guerre, mais enfin, il suffit de savoir, de se documenter, de lire des trucs, de voir des documentaires bien faits. On sait que c'est pas, que Jésus humanité peut constituer à achever quelqu'un. C'est pas à confondre avec d'autres genres qui sont poétiques, romantiques, mais qui sont pas ça.
Alors, le propos sur la guerre était antérieurement un peu différent avec Les Sentiers de la Gloire, puisque là, il s'agissait de mettre en scène un maréchal ou un général de l'armée française qui envoie ses troupes non seulement à la boucherie, mais qui en plus fait des exemples, tue certains de ses soldats pour motiver les troupes. Voilà, ça a eu lieu en 1916, c'est là où se passe l'action. Donc là, c'est un autre sujet sur la question de la guerre. On est plus dans la psychologie, là.
C'est le système où, effectivement, c'est des jeux de pouvoir. Hein. C'est le pouvoir, c'est des jeux de pouvoir, de garder la face. C'est une logique qui devient folle et tueuse. Et puis, évidemment, c'est la face hideuse de la... une sorte de forme d'héroïsme ou de nationalisme poussé à la connerie, enfin je sais pas comment dire, mais assumé, d'ailleurs très bien joué par Menjou, qui joue d'ailleurs le méchant de l'histoire. Le point faible d'ailleurs, Kubrick en était conscient, je crois, de Sentier de la Gloire, qui est un film extraordinaire, c'est évidemment qu'il y a un personnage tout positif et tout gentil, bien qu'il soit impuissant à changer le cours des choses, c'est le personnage joué par Kirk Douglas, n'est-ce pas,
qui est peut-être pas le bon acteur pour la finesse du rôle.
C'est un personnage que j'aime bien, mais je ne sais pas comment il aurait fallu le traiter. Mais les scènes où ces gens qui savent qu'ils vont mourir au petit matin et qui voient passer un grand creux là dans leur prison et disent lui sera vivant, nous on sera mort, c'est terrible. Alors là, pour moi, c'est une représentation de l'inéluctabilité de la mort, surtout, vous savez que ça hantait Victor Hugo. Hein, je sais que tout le monde va mourir, mais moi je sais que ça va être de cette façon-là à tel moment. C'est extraordinaire comme il l'a rendu, et c'est ça qui reste du film, et qui est la chose la plus forte. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, la confrontation avec le fait de se savoir, de se sentir mourir.
Du coup, ce sera peut-être ma dernière question parce que on approche de la fin de l'émission. Entre Les Sentiers de la Gloire et Full Metal Jacket, il y a une évolution du regard. Vous avez passé en revue les 13 films de Stanley Kubrick, Michel Chion, dans votre livre. Est-ce que vous avez repéré une évolution sur l'ensemble de la carrière de Stanley Kubrick, un changement ou une ligne de fuite qui nous permettrait de comprendre un petit peu ce qu'il cherchait profondément?
Je crois qu'il a eu l'immense chance de pouvoir dire quelque chose d'assez complet, parce que le dernier film qu'il voulait absolument faire, mais depuis très longtemps, vous savez que des fois on fait un film en attendant d'en faire un autre. Hein, on a plus de possibilité de faire Shining, alors qu'on rêve depuis 10 ans d'adapter une nouvelle de Schnitzler qui correspond pas, ou sans Napoléon, ou une nouvelle de Schnitzler que les gens se disent oui, mais c'est pas pour vous, Kubrick, qu'est-ce qu'il peut faire un thriller sexuel avec ça, mais pas autre chose. Et donc, il a eu la chance de pouvoir faire et de réussir, Eyes Wide Shut, qui nous donne une image de la vie, quotidienne, bien que ça soit joué par des stars, c'est ça le paradoxe complet du film, c'est joué par des stars, c'est un film sur lequel il a couru plein d'histoires, etc., qui a coûté très cher, non pas pour l'équipe technique qui était réduite au minimum, mais pour payer pendant un an et demi les stars parmi les plus chers du monde, c'est une histoire de fou, et c'est un film magnifique sur la beauté de la vie quotidienne et de la continuation. Alors moi j'ai fait, d'ailleurs je me permets de placer ici l'interprétation que j'ai faite de ce film, qui a fait réagir quelques lecteurs, en tout cas dans l'édition anglaise, j'en étais très content. C'est que je dis que le sens à donner au dernier mot du film, et donc de l'œuvre de Kubrick, fuck, c'est parce qu'ils vont faire l'amour, les personnages d'Alice et de Bill vont faire l'amour après que le film sera terminé, ils vont avoir un garçon. Voilà mon interprétation.
Bon, vous nous laissez peut-être presque un peu sur notre fin, mais c'est pas grave parce qu'on reparlera de Eyes Wide Shut jeudi prochain. Merci beaucoup Michel Chion d'être venu nous parler aujourd'hui de l'œuvre de Stanley Kubrick. Il faut lire votre livre Stanley Kubrick, l'humain, ni plus ni moins, aux éditions des Cahiers du Cinéma. Tout de suite, la chronique de Christophe Carrière.
Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Christophe Carrière, du magazine L'Express. Bonjour à vous Christophe.
Bonjour Mathieu.
Vous venez nous parler aujourd'hui de notre héros du jour, Kubrick, oui. Mais du côté de la réception de ses films.
Bah oui, parce que quand il s'agit de Kubrick, spectateur rime avec admirateur, adorateur, laudateur, j'en passe, et des meilleurs.
C'est vrai qu'on aime bien quand même.
Bah oui, oui, et pour cause, puisque Kubrick reste le meilleur, l'affaire est entendue, là-dessus on est d'accord. Mais tant qu'à jouer avec les rimes en heure, parlons de heure, H-E. URTS, car le spectateur de Kubrick a sinon toujours, en tout cas souvent, été un contempteur, pour peu que son métier était critique. Peut-être parce que critique rime avec Kubrick. En tout cas, entre la presse et Stanley, il y a effectivement souvent eu un hic. J'ai remarqué ce point d'achoppement en 1980, figurez-vous. Je n'étais pas encore journaliste cinéma, critique étant un métier subsidiaire, puisque, comme disait François Truffaut, tout le monde a deux métiers, le sien et critique de cinéma. Bref, j'étais à l'orée de mes 16 ans, je venais de voir Shining, que je considère et considère encore aujourd'hui, désolé, cher ami Michel Chion, comme un chef-d'œuvre, et je lis dans Première, le célèbre magazine de cinéma, que Shining est, je cite, un film risible, dans lequel, je cite toujours, Nicholson en fait des caisses. Alors, bien des années plus tard, alors que je travaille dans ce même magazine, une de mes collègues revient de la projection de Eyes Wide Shut, extrêmement déçue, et me sort comme argument massue, Kubrick a si peu d'inspiration qu'il a pris comme musique celle de la publicité pour les assurances. Je ne cite pas la marque d'assurance, mais je peux citer l'auteur de cette fameuse valse qui hanta longtemps nos écrans publicitaires, Shostakovich.
Bon, mais pour rassurer votre collègue, on peut quand même passer à côté d'un film, même quand on est un grand critique professionnel
oui,
de l'Express.
Alors, oui, mettons de côté cet exemple. Les critiques ne sont pas forcément que des béotiens ou ne le demeurent pas. Moi-même, à 22 ans, je m'étais rendu à une projection de Pickpocket de Robert Bresson, persuadé avant d'entrer dans la salle que c'était son nouveau film alors qu'on était en 1986. Les Bressoniens apprécieront. Personne n'est à l'abri de se tromper, mais il est amusant, rétrospectivement, de constater que le critique de cinéma a souvent été le plus mauvais spectateur de Kubrick. Entre autres exemples, à la sortie de 2001, l'Odyssée de l'espace, Michel Aubryant, du Journal du Dimanche, déclarait dans Le Masque et la Plume sur France Inter trouver le film, je cite, « d'une grande niaiserie, espèce de métaphysique vasouillarde et pitoyable ». Et d'ajouter « n'oublions pas que Kubrick est un ancien photographe de Vogue, pas un universitaire, il pense avec ses pieds », fin de citation. Alors si Kubrick pensait avec ses pieds, je souhaite à tous les metteurs en scène d'avoir le talent d'un de ses orteils.
Je ne sais pas s'il était photographe à Vogue, il était surtout photographe à Look. En oui. Tout cas, sur Orange Mécanique, autre oui. De ses grands films, est-ce qu'il avait eu de bonnes
oui,
critiques?
Alors pour Orange Mécanique, l'éminent Georges Charansol, encore dans Le Masque et la Plume, affirmait
le
que
pauvre.
C'était là... Alors accrochez-vous, l'œuvre d'un fasciste. Et dans le non moins éminent magazine L'Express, je sais de quoi je parle, on écrivait que c'était un chef-d'œuvre pollué et polluant, une machine destinée à broyer les sensibilités et à remplir les caisses, fin de citation. Et là, je ne parle que des critiques français. Les Américains ne sont guère plus clairvoyants. Il y a évidemment la fameuse Pauline Kael, qui démontait systématiquement tous les films de Kubrick, résumant Barry Lyndon, hein, tout ça pour ça, ou réduisant Shining à un bon mot, la montagne a accouché d'une souris, ça vous plaît ça, hein, Michel. Mais il y a également le Washington Post, dans lequel on pouvait lire à propos d'Eyes Wide Shut que c'était un film triste, boiteux, ancien, dépourvu d'idées. Alors concluons ce jeu de massacre avec le critique le plus sévère, mais aussi le plus légitime, Stanley Kubrick lui-même, qui déclara, après la sortie de son premier film, Fear and Desire, qu'il s'agissait d'une tentative inepte et prétentieuse. Après quoi, il retira le long métrage des circuits et en interdit toute projection, optant du coup pour une solution assez radicale, pas de spectateurs égale pas de critique.
Merci beaucoup Christophe. On retrouve votre signature dans les pages culture du magazine L'Express où vous nous parlez des films que vous nous conseillez
bah oui.
À voir maintenant. Juste un titre.
Bah écoutez, quelques semaines après la sortie de Shining qui remporta un franc succès, était diffusé sur TF1 un feuilleton étrier lui aussi. par une grande partie de la presse, mais plébiscité par les téléspectateurs, dont moi, Pause Café avec Véronique Jeannot, La vie scolaire, qui sort ce 28 août, est peu ou prou sur le même créneau, une année dans la vie d'un collège à travers sa CPE, sauf que ce long métrage, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Edir, colle bien plus à la réalité. C'est très bien mis en scène, voilà, avec plein de bons personnages. Bref, allez-y.
La compagnie des œuvres, c'est Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Hélène Rivière et Alice Seyed. Merci beaucoup Christophe Carrière.